Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Il faut arrêter, maintenant je vais vous dire, franchement, de nous prendre pour des cons. Et attendez, vous oubliez mon personnel, il ne peut plus travailler mon personnel, il se retrouve à la rue. Attendez, mais vous avez vu ça?
Les restaurateurs, cafetiers, gérants de discothèques dans la rue à Marseille pour dénoncer le maintien de la fermeture de leurs établissements.
Fermeture confirmée ce matin par Jean Castex.
Fermeture confirmée aussi pour les universités et elles non plus ne comprennent pas pourquoi. Non, les facs ne sont pas des clusters en puissance.
Maintenir la pression, ne pas relâcher les efforts, dit le Premier ministre. Et pourtant, on verra que la France est plutôt bon élève d'un point de vue sanitaire si on la compare à ses voisins.
Enfin, un accord sur le télétravail entre syndicats et patronats. Ce fut long et compliqué, accord qui mise avant tout sur le dialogue social au sein de chaque entreprise.
Les trois policiers filmés en train de frapper un producteur de musique noire à Paris, samedi dernier, suspendu. Les images montrent une intervention très violente assortie d'après l'intéressé de propos racistes.
Et puis au sommaire également, cette guerre qui secoue actuellement le nord de l'Éthiopie. Déjà des centaines de morts au Tigré, mais le pire est à venir, nous dira Didier François.
Un coup d'œil au temps avec Anissa, du soleil après les grisailles matinales.
Oui, la journée de demain va commencer comme depuis plusieurs jours par de nombreux brouillards, soyez prudents. Puis le soleil s'impose dans l'après-midi. Attention, le temps reste agité au bord de la Méditerranée. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Comme prévu après les annonces d'Emmanuel Macron, c'est donc Jean Castex qui ce matin a fait le service après-vente.
Avec une confirmation, dès samedi, les commerces pourront ouvrir et ce jusqu'à 21h. Les auto-écoles et les visites immobilières pourront également reprendre. Les lieux de culte vont rouvrir progressivement, mais avec une jauge finalement maintenue, limitée à 60 personnes maximum.
Les sports individuels en plein air.
À 30 personnes.
Les sports individuels en plein air seront de nouveau autorisés à partir de ce week-end, mais dans les stations de ski, les remontées mécaniques et les équipements collectifs resteront fermés.
En gros, vous pourrez respirer le bon air de la montagne, c'est tout. Pas de ski, pas de raclette, pas de vin chaud, puisque comme partout, bien sûr, les bars et les restaurants seront eux aussi fermés.
Et ils le resteront au moins jusqu'au 20 janvier. La colère monte de plus en plus chez les intéressés qui s'estiment sacrifiés.
Et qui ont de nouveau manifesté aujourd'hui, comme à Marseille, Stéphane Frangy, avec encore plus de monde que les fois précédentes.
Oui, beaucoup sont venus en autocar pour grossir les rangs de cette manifestation, venus de Béziers, de Nice ou encore des Hautes-Alpes. Et ce sont au final autant de messages de détresse que l'on peut entendre. Exemple avec Jacques qui se dit pour sa part pratiquement ruiné.
Je suis pas loin, après 21 ans de travail, tout ce que j'ai mis de côté est parti. J'ai fait un prêt de 100 000 euros, ce PGE est parti dans la première phase des loyers. Et là maintenant, il n'y a pas de caisse qui rentre. Donc automatiquement, ce sont sur les économies et le peu qui nous reste.
Voilà, et dans le cortège, sur les pancartes, certains comme Sandra ont écrit leur menu du jour.
Alors au menu, tout ce que notre cher Manu nous annonce, des taxes, du chômage et de l'espoir, on en a beaucoup plus malheureusement.
Et la colère monte tout simplement, chaque jour un petit peu plus. Exemple avec Jacques Mestre, le président de l'UMI de l'Hérault.
Nous faisons la distanciation, des séparations. S'il faut en faire un peu plus, on est capable de le faire. Mais il faut arrêter maintenant, je vais vous dire, franchement, de nous prendre pour des cons. Et attendez, vous oubliez mon personnel, il ne peut plus travailler mon personnel, il se retrouve à la rue. Attendez, mais vous avez vu ça?
Voilà, un sentiment d'urgence doublé d'une très grande défiance. Personne ici ne croit une possible réouverture en janvier prochain.
Le reportage de Stéphane Frangy à Marseille.
Autre secteur qui s'estime injustement pénalisé, les universités. Pas de reprise des cours en présentiel avant février et si tout va bien.
Et ça, c'est catastrophique pour les étudiants. Le président de la fac Bordeaux-Montaigne, Lionel Larré, ne comprend pas car pour lui, contrairement aux idées reçues, les facultés ne sont pas du tout des clusters en puissance.
On est en colère, on ne comprend pas pourquoi les universités sont la dernière des priorités. Les universités et les étudiants sont victimes de clichés. On a décrit à un moment les universités comme des clusters. Or, c'est faux. Nos étudiants respectent le port du masque, les gestes barrières, la distanciation. Nous, à l'université Bordeaux-Montaigne, au sommet de l'épidémie, on a eu 45 cas positifs sur 18 000 étudiants. Et c'est vrai dans la plupart des universités. Totale incompréhension, puis surtout maintenant inquiétude pour nos étudiants. Des gamins qui décrochent, des études sont faites sur le niveau de déprime, de détresse dans lesquelles un grand nombre d'étudiants se trouvent. Il y a une question de santé publique là qui va se poser très clairement. Les présidents d'université s'organisent pour réclamer le retour des étudiants au moins dès le début du deuxième semestre, aux environs de mi-janvier selon les établissements, et non pas en février. Au pire, avec 50% des étudiants, comme on le faisait auparavant, ce qui fonctionnait très bien avec toutes les précautions nécessaires. Les universités se sentent méprisées aujourd'hui.
Lionel Larré, le président de la faculté Bordeaux-Montaigne, au micro européen de Stéphane Place.
Autre précision apportée par le Premier ministre ce matin, il y aura une tolérance pour rentrer du cinéma et du théâtre après 21h à compter du 15 décembre, date à laquelle les conservatoires et écoles de musique rouvriront, mais pas les classes de chant.
Le gouvernement qui met de nouveau la main au portefeuille pour aider les plus impactés. côté, l'État promet de créer 20 000 jobs étudiants pour les jeunes décrocheurs. Également, une garantie de ressources de 900 euros par mois pour près de 400 000 précaires. Et puis, une nouvelle aide pour les entreprises de certains secteurs particulièrement pénalisés par la crise, notamment l'hôtellerie.
Oui, l'effort paye, mais nous ne pouvons pas baisser la garde, a redit ce matin le Premier ministre en détaillant ces mesures. Les Français vont donc encore devoir patienter, faire des efforts.
Et pourtant, Victor Delande, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, eh bien on n'est pas si mal. La France est même, pour une fois, parmi les meilleurs élèves de l'Europe.
Oui, le taux d'incidence en France a connu un très fort recul sur les trois dernières semaines. On a même moins de contaminations depuis quelques jours que l'Allemagne. Le pic épidémique en France a été atteint lors de la deuxième semaine de novembre. Ça signifie que depuis trois semaines, le nombre d'infections est en diminution constante, une chute rapide puisque chaque semaine, on compte 30% de cas positifs en moins par rapport à la semaine précédente. Sur les sept derniers jours en moyenne, un peu moins de 15 000 cas ont été recensés chaque jour, contre 45 000 au moment du début du confinement. La diminution est également visible dans les hôpitaux. Les hospitalisations et le nombre d'admissions en réanimation baissent tous les jours. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc loué la stratégie de la France ces dernières semaines.
On peut dire que ça va mieux et à tous les niveaux. Les mesures que nous avons prises étaient et elles restent nécessaires, efficaces, proportionnées. Elles ont été prises au bon moment. La pression sanitaire reste forte. L'épidémie n'est pas derrière nous. La seconde vague n'est pas terminée. Nous devons donc poursuivre sur notre lancée, ne pas relâcher maintenant notre vigilance, surtout pas, ne pas relâcher nos efforts, et nous réussirons.
Si le recul de l'épidémie se poursuit, nous pourrions atteindre les 5000 cas par jour à la fin de la deuxième semaine de décembre, a assuré Olivier Véran. 5000 cas par jour, c'était le seuil fixé par le chef de l'État pour remonter toutes les chaînes de contamination et donc reprendre le contrôle sur l'épidémie. Prudence, toutefois, cette prévision est plutôt optimiste. Les modélisateurs de l'épidémie estiment, eux, que nous atteindrons cette barre plutôt vers la fin du mois de décembre.
Précision de Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Et même si la situation s'améliore donc lentement d'un point de vue sanitaire, pas question pour l'instant de reprendre une vie normale. Le télétravail, notamment, reste la règle.
Et cette fois, ça y est, un texte a enfin été validé par les partenaires sociaux après des allers-retours nombreux, des discussions laborieuses. Trois syndicats, la CFDT, FO et la CFTC, ont annoncé leur intention de le signer. On attend maintenant la décision de la CFE-CGC. Pour la CGT, c'est non. Alors au final, que prévoit ce texte, Olivier Samain ?
Eh bien, jusqu'au bout, le patronat s'est accroché à son exigence de ne pas aboutir à un texte normatif, autrement dit un texte qui rajouterait des obligations nouvelles aux entreprises en matière de télétravail. Et il a obtenu gain de cause. L'accord ne sera pas normatif, mais les syndicats qui ont annoncé leur intention de le signer considèrent que sur plusieurs points, le texte va permettre de mieux protéger les salariés en télétravail. D'abord, sur la question sensible de la délimitation des postes télétravaillables dans l'entreprise, l'employeur devra à minima consulter les élus du personnel et sera même encouragé à négocier un accord sur le sujet. Même chose sur la question des frais qu'entraîne le télétravail pour le salarié. C'est l'employeur qui doit les prendre en charge, mais sur les modalités de cette prise en charge et le montant du forfait, la négociation d'un accord dans l'entreprise est recommandée. Le passage en télétravail devra faire l'objet d'un double volontariat, celui de l'employeur et celui du salarié. Et la possibilité pour un salarié qui a accepté de passer en télétravail de revenir ensuite sur sa décision est gravée dans le marbre. Il pourra retrouver son poste d'origine. L'accord prévoit enfin un cadre spécifique pour les situations exceptionnelles, type pandémie. Là, le double volontariat ne s'appliquera pas, c'est l'employeur qui décidera. Mais là aussi, le dialogue social est préconisé pour définir les conditions du passage au télétravail.
Le décryptage d'Olivier Samain du service Écho d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Il est 19h10, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet et on parle de cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Un homme noir passé à tabac par des policiers alors qu'il se trouve à l'entrée de son studio de production. Ça se passe dans le 17e arrondissement de Paris, scène qui a eu lieu samedi dernier.
Et c'est la vidéosurveillance de ce studio qui a permis de révéler cette affaire au grand jour. Les images sont extrêmement choquantes. On y voit le fameux Michel, manifestement pas du tout agressif, subir pendant plus de 10 minutes des coups de pied, de poing et de matraque.
Avant d'être interpellé et conduit au poste où il passera 48 heures en garde à vue, avant d'être libéré, faute de charges retenues contre lui, face à l'émotion suscitée par ces images, les trois policiers ont été suspendus par le préfet de police à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le préfet de police qui demande également ce soir la suspension d'un quatrième policier qui, lui, a lancé une grenade lacrymogène à l'intérieur du bâtiment.
Maître Afida El Ali est l'avocate du producteur. Elle l'a accompagné cet après-midi pour son dépôt de plainte à l'IGPN.
Mon client a eu la chance d'avoir ces vidéos qui permettent de dénoncer ces actes qui sont certes isolés mais qui existent. Et si on n'avait pas cela, malheureusement, évidemment qu'il sera en détention. Parce que c'est sa parole contre celle des policiers. Et l'on sait parfaitement que c'est celle des policiers qui l'emporterait. Quelle que soit la personne, une personne, même si, quelle que soit l'ignominie des choses qu'elle ait pu faire, ce qui n'est pas celle de mon client, il n'a pas à être ainsi molesté et battu de la sorte.
La suite, c'est quoi pour vous ?
La suite, c'est les services de police en fonction de leur rapidité. On espère une confrontation dont mon client est prêt à y aller. Contrairement aux services de police qui, en garde à vue, ont refusé. Au départ, souhaitaient venir, mais à partir du moment où ils ont découvert qu'il y avait des vidéosurveillance, l'ont refusé, puisque la vérité aurait été exposée au grand jour.
L'avocate du producteur tabassé par trois policiers, elle était au micro européen de Pierre Herbulot. Beaucoup de réactions depuis la diffusion de cette vidéo. « J'ai mal à ma France », tweet le footballeur Antoine Griezmann. « Le préfet doit partir, la police doit être reprise en main », dit Jean-Luc Mélenchon. Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, patron des députés LREM, estime qu'à travers cette agression insoutenable, c'est notre humanité qui est atteinte.
Oui, affaire qui survient alors qu'on le rappelle. Il y a aussi l'affaire de l'adoption cette semaine par l'Assemblée nationale de la proposition de loi de sécurité globale avec le fameux article 24. On attend donc une réaction ce soir du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et alors que l'on a par ailleurs appris tout à l'heure que trois policiers impliqués dans l'interpellation violente de Théo, qui avait relancé, vous en souvenez sans doute, en 2017, le débat justement sur les violences policières, et bien ces trois policiers seront jugés faits rares devant une cour d'assises pour violences volontaires.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, une guerre dont jusqu'ici on a très peu parlé. Celle qui oppose actuellement l'Éthiopie au Tigré, l'une de ces régions indépendantistes.
Aujourd'hui, le président éthiopien a annoncé le lancement d'une vaste offensive contre la principale ville de cette province. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Offensive qui s'annonce sanglante pour les civils et qui pourtant semble laisser indifférente la communauté internationale.
Bah oui, voilà, c'est ce qu'on appelle une guerre à bas bruit. Ça fait quand même 3 semaines que les combats ont commencé. Ils ont fait plusieurs centaines de morts, dont de nombreux civils. Des dizaines de milliers de vieillards, de femmes, d'enfants ont déjà fui au Soudan où ils s'entassent dans divers camps de fortune, montés à la hâte, alors parfois par les Nations Unies, mais souvent par les réfugiés eux-mêmes. Il y manque absolument de tout, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Mais voilà, c'est loin, isolé dans la Corne de l'Afrique, une région assez difficile à placer sur la carte, sans matière première vitale ou enjeu stratégique majeur. Et donc oui, le massacre va s'y poursuivre dans une assez grande indifférence, faut bien le dire, puisque la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue mardi sur la question n'a finalement adopté aucune résolution, à la demande d'ailleurs des pays africains qui voulaient tenter une médiation entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. Mais à l'évidence, l'affaire est plutôt mal engagée puisque, comme vous l'avez dit, l'armée vient d'annoncer le début de son offensive sur la principale ville rebelle dans laquelle est assiégée un demi-million d'habitants.
Et quelle est la raison, Didier, de ce conflit ?
Eh bien, c'est l'éternelle bataille pour le pouvoir sur fond de division ethnique. Il faut savoir que ceux qui sont aujourd'hui les rebelles dans le Tigré ont été pendant 30 ans, en fait, les véritables patrons de l'appareil sécuritaire éthiopien de 1991 à 2018, date à laquelle un nouveau Premier ministre a été nommé à la tête du pays, qui lui est d'origine Oromo. C'est l'ethnie la plus nombreuse en Éthiopie. Et donc, il a commencé à remettre en cause la domination des Tigréens sur l'armée et les services de renseignement. C'est à la suite de ces purges que la révolte du Tigré a commencé. Et c'est pour mater ce soulèvement que les forces fédérales ont déclenché cette guerre.
Merci Didier pour ce papier. C'est notre rôle et notre fierté de journaliste aussi de parler de ces guerres oubliées qui passent parfois sous les radars. Merci à vous. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. L'hommage national cet après-midi aux Invalides à Daniel Cordier, décédé vendredi dernier, avant-dernier compagnon de la Libération. Emmanuel Macron a longuement salué sa mémoire. Avec quelques autres, il a permis, a-t-il dit, à la France de reprendre possession de son destin.
Diego Maradona sera enterré ce soir ou demain matin dans un cimetière proche de Buenos Aires. Des dizaines de milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage devant le palais présidentiel où était exposé son cercueil. Mediapro, le diffuseur majeur de la Ligue 1 qui souhaite revoir son contrat à la baisse, assigne Canal+ en justice. Il lui reproche de tenter de l'évincer du marché des droits TV du foot français. Et puis la 4e journée d'Europa League, Lille, leader de son groupe, accueille le Milan AC. Ça se passe en ce moment. La rencontre a débuté il y a une vingtaine de minutes, pour l'instant toujours 0-0. Et puis à 21h, Nice reçoit le Slavia Prague sans son attaquant Kasper Dolberg, positif au Covid-19.
Bien, merci Isabelle pour ce journal. À demain, 18h. La météo avec un coup d'œil au ciel. Nice nous a rejoint. Du mauvais temps dans le sud demain. Voilà
oui.
Le programme.
Sur le golfe du Lion, Julien, la journée de demain sera agitée avec de la pluie toute la journée. Ces précipitations vont s'intensifier dans l'après-midi. Le vent d'Otan souffle toujours fort et sur le Var, c'est le vent d'est qui se lève. À l'est de la Corse, là aussi, pluie, vent et averses orageuses. En Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire, le ciel est un petit peu plus nuageux. Partout ailleurs, le soleil est bien au rendez-vous. Demain, la journée sera agréable dans l'ensemble. Les températures, moins 2 à 12 degrés demain matin, moins 2 pour Nancy, 12 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 4 à 19 degrés, 4 à Strasbourg, 10 à Paris et 19 pour Ajaccio.
Voilà, c'est le grand écart entre 4 et 19.
Ah ouais, grand écart, ouais.
Merci Anissa.
À demain.
À demain.